Bien, bonjour, moi je m'appelle Fabrice Jeumont, je vous parle d'ailleurs actuellement des Adirondacks, tout au nord de New York, sur le lac Champlain. Je suis basé aux États-Unis depuis plus de 20 ans, je suis chercheur affilié à la FNSH et j'enseigne aussi à New York University et je parle souvent de mes centres d'intérêt de recherche, qui sont bien sûr la philanthropie et l'éducation, le lien entre les deux. C'est quelque chose qui m'intéresse déjà depuis que je suis arrivé dans ce pays où forcément les mécènes sont partout, les donateurs sont partout. Et j'ai trouvé ça très intriguant d'en faire un sujet de recherche que j'ai fait donc pendant ma thèse, pour ma thèse de doctorat à New York University. Et de là, là est né le livre Partenaires inégaux, publié par, d'ailleurs d'abord en anglais, puis ensuite en français par les éditions de la Science de l'Homme. Ce qui m'intrigue aussi dans cette philanthropie américaine depuis le début, c'est aussi ça qui explique souvent ce qu'on fait, c'est d'être en contact dans ce pays avec des philanthropes et de toute taille qui donnent à toutes sortes de causes. Moi, j'ai par le biais de mon travail, de mes activités, j'ai bénéficié aussi de cette philanthropie. J'ai reçu des bourses, bien sûr, pour aller passer mon doctorat à l'université, à New York University. J'ai eu une bourse, pour faire des recherches. J'ai aussi réussi à lever beaucoup d'argent pour mes activités liées à l'ambassade de France, notamment dans le secteur éducatif et l'éducation bilingue, où les donateurs, soit les fondations, soit des individus, soutenez notre effort pour construire des filières bilingues dans les écoles publiques. Donc il y a toute cette richesse autour de moi qui, venant de France, finalement, ça m'a intrigué dès le départ. Que veulent ces mécènes? Que cherchent-ils? Et pourquoi donner de l'argent à l'école? Pourquoi donner de l'argent à des étudiants? Enfin, toutes ces questions-là venant de France m'ont interpellé, puis j'ai commencé à chercher dans le détail et à faire une enquête là-dessus. Et puis, voilà, je suis arrivé ensuite à ce sujet de ces grandes fondations américaines telles Bill Gates, MacArthur, Carnegie, Ford, Rockefeller, tous ces grands noms, hein, les usual suspects, comme on dit. Pourquoi sont-ils là? Et puis, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire dans certains secteurs? Donc, j'ai regardé, moi, le secteur africain, universitaire africain, donc, le développement des universités en Afrique, et c'est là où j'ai vu beaucoup d'universités américaines, beaucoup de fondations américaines, pardon, investissaient dans le développement du secteur universitaire africain. Donc, je me suis posé la question ensuite de savoir pourquoi. Forcément, on tombe dans des tas de choses, des zones grises. Est-ce que c'est de l'influence? Pour le bien commun, ou est-ce que c'est pour servir des intérêts néolibéraux, on va dire? Et donc là, c'est là-dessus que j'ai écrit ce livre, publié d'ailleurs par les éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, qui s'appelle Partenaires inégaux. Autant faire un peu de publicité. Les Partenaires inégaux parle de cette relation entre les fondations américaines et les universités africaines. Voilà, c'est cette relation presque inégale. On est dans un partenariat, mais c'est bien celui qui a l'argent qui décide aussi de la direction du partenariat. Mais comment négocier dans cette relation? Comment essayer de s'en sortir quand on est une petite université sans moyens et avec un gros besoin de cash? Quand on vient de France, je crois qu'on est habitué à avoir l'État qui répond à tous nos besoins. On n'imagine pas finalement que le secteur privé, le philanthropique, qu'on appelle ici le troisième secteur. D'ailleurs, c'est pas uniquement... il y a l'État, le public, bien sûr, il y a le privé, les entreprises, et le troisième secteur, celui de la société civile, c'est d'ailleurs un secteur essentiel aux États-Unis. On le voit encore aujourd'hui dans tout ce qui est Black Lives Matter, tout ce qui est protestation contre les abus qui existent. On sent ce secteur de la société civile très, très actif, très engagé. Et les fondations, surtout pendant la crise d'ailleurs de la COVID, je crois que c'est la COVID en français, la COVID, on sent... Où des tas d'organisations à but non lucratif ont perdu de l'argent, les grosses fondations se sont mises ensemble pour soutenir le secteur des organisations à but non lucratif ici et s'assurer que ces associations ne disparaissent pas dans la crise économique qui est en train de sévir. Donc il y a un vrai enjeu à ce que ce troisième secteur reste fort, reste actif. C'est la voie aussi de la démocratie et c'est important de le voir évoluer, de le voir agir.
Qui sont les grands philanthropes américains d'aujourd'hui et vers quelles grandes causes se tournent-ils?
Bon, alors c'est très vaste. Le secteur des fondations, ça représente, je crois, cette année ou l'année dernière, c'était à peu près 600 milliards de dollars. Ça inclut les dons d'individus. C'est la principale somme vient d'individus qui donnent à leur école, à leur église, à l'association ou aux causes qui les intéressent. Mais après cela, il y a ces institutions, ces fondations. Il y en a presque 100 000, plus de 100 000 d'ailleurs, qui se sont institutionnalisés. Alors souvent, ça part d'une fortune privée faite pendant, à l'exemple de Carnegie ou Rockefeller ou MacArthur, toutes ces grandes fortunes qui se sont faites sur le capitalisme et souvent, parfois, de façon douteuse. On les appelait les Robber Barons, les barons qui volaient les petites gens pour s'enrichir et qui ont ensuite créé des fondations pour se racheter un petit peu une conscience. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve encore même aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus Carnegie et Rockefeller. Maintenant, ils s'appellent Zuckerberg, ils s'appellent Jeff Bezos, le président d'Amazon. Il y en a d'autres comme ça. Alors, Bill Gates, lui, fait figure de meneur puisqu'il a créé ce qu'ils appellent le Giving Pledge, qui est comment dirais-je, cette manière, un engagement moral que doivent faire toutes ces grandes fortunes et dans laquelle ils devront donner de leur vivant toute leur fortune à des causes caritatives. Donc c'est Bill Gates qui a lancé ça avec Warren Buffett, un autre milliardaire et de plus grosse fortune aux États-Unis, pour encourager tous ces milliardaires à donner leur argent, à rendre, on parle de give back, à rendre à la société qui les a fondés, qui a permis leur réussite. Donc, c'est ensuite dans tout un tas de causes qu'on les retrouve qu'on retrouve leur fondation. Bien sûr, l'éducation reste première, la santé, on retrouve bien sûr la recherche, on retrouve l'environnement, on retrouve aussi la religion, qui est très importante dans ce pays. Ouais. Et puis tout ce qui est aussi lié à la démocratie et ça se retrouve aussi à l'étranger, c'est-à-dire que c'est une philanthropie finalement qui depuis une centaine d'années maintenant est devenue s'internationalise et vient soutenir des institutions, des causes au-delà des frontières. Alors bien sûr on en a trouvé en Europe comme vous le savez sûrement pour la FMSH, c'est un don de la Ford Foundation qui a fondé la Fondation des sciences de l'homme, toujours dans une optique de venir un petit peu contrer l'influence des pensées marxistes à l'époque. C'est la même chose qui s'est passée dans d'autres pays où les fondations américaines venaient un petit peu jouer de soft power et de venir un petit peu aider le gouvernement américain à lutter contre, surtout pendant la guerre froide, contre les influences communistes. Et aujourd'hui, on retrouve de plus en plus de fondations qui investissent à l'international et notamment, moi, ce que j'ai regardé dans le livre que j'ai écrit pour les éditions de la FMSH, c'était ce rapport avec les universités. Et le fait que ces fondations s'intéressent à l'avenir d'une certaine manière et à la jeunesse, mais qu'elles viennent aussi construire des universités de demain, qu'elles viennent aussi s'assurer que par le biais des universités, on arrive à créer des sociétés plus démocratiques et qui produisent des étudiants, des gradués avec une pensée libérale et ouverte sur le monde. Ça, c'est ce que j'ai finalement compris des investissements des fondations américaines en Afrique et dans le développement des universités africaines. Alors, bien sûr, il y a plein de choses à dire là-dessus, sur l'influence des fondations américaines en Afrique et dans la construction de l'Afrique, la construction de cette jeunesse africaine, ces futurs leaders de l'Afrique. Finalement, c'est pas en vain que les Américains viennent investir dans cette jeunesse, et c'est pas en vain aussi que c'est ça, je parle de ça dans le livre, que les thèmes qui sont un peu poussés par ces fondations viennent en gros développer un modèle universitaire assez proche du modèle universitaire américain, mais c'est un modèle finalement aussi lié au développement économique. Donc il y a toujours un lien quelque part avec les fondements néolibéraux, c'est-à-dire que l'idée est, et c'est ce qui a été mis en avant par ces fondations, les fondations que j'ai étudiées dans le livre, c'est qu'on construisait des universités africaines qui allaient servir de moteur de développement économique pour le continent africain. Donc on crée ce lien, finalement, on transforme l'université, on la modernise. Ça aussi, le terme de modernisation d'une université, c'est pas anodin, il y a toujours des arrière-pensées derrière, mais là on vient moderniser ces universités et les transformer en moteur économique d'une certaine manière, et en changeant un petit peu la perception qu'on a des universités. Alors il faut savoir que ça a commencé dans les années 2000, parce que à l'époque tout ce qui était les bailleurs de fonds, en tout cas, investissaient principalement dans le secteur de l'éducation primaire et beaucoup moins dans le secteur universitaire. Et de la même manière, les gouvernements africains avaient un petit peu délaissé les universités, puisqu'il y avait d'autres priorités. Et du coup, ce sont les fondations américaines qui ont, bien sûr, avec l'aide des universitaires africains eux-mêmes, faut pas l'oublier, c'est un partenariat, même si c'est un partenariat inégal, c'est un partenariat. En tout cas, c'est avec ces fondations que l'idée de ces universités étant des moteurs de développement économique est revenue sur la table, est réapparue sur la table. Et aujourd'hui, maintenant, tout le monde le prend pour un acquis. En effet, l'université peut servir à ça, à développer l'économie. Mais ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Et c'est grâce à ces fondations, donc Carnegie, Rockefeller, Ford, MacArthur, toutes celles qui ont formé le partenariat pour le développement de l'université, du secteur universitaire en Afrique. C'est grâce à ces fondations-là, plus d'autres qui sont venues. Hein. Moi, j'en ai dénombré une centaine dans mes recherches, qui viennent investir dans le secteur universitaire africain. Donc, c'est surtout grâce à elles qu'aujourd'hui, ces universités africaines sont un peu plus compétitives ou un peu plus ouvertes sur ce qu'une université globale, mondiale, est censée être. Donc ça, c'est un sujet qui est forcément plein de nuances. Il faut se poser la question, bien sûr, de l'influence. Il faut se poser la question, quelle est la part, est-ce que les Africains sont encore en contrôle de l'ordre du jour? Est-ce qu'ils peuvent décider? Et c'est le cas, bien sûr. C'est une danse à deux, c'est un tango que dansent les fondations et les universités. Il faut que tout le monde soit d'accord, finalement. Il y a une question de légitimité qu'il faut respecter dans ces investissements et la présence des fondations sur le terrain universitaire africain. Il faut bien sûr qu'elles soient acceptées, qu'elles soient les bienvenues, et pour cela, il faut que les universitaires africains soient d'accord et puissent aussi avoir leur mot à dire. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes aussi à observer. On n'envoie pas qu'un chèque à la poste, voilà, vous allez faire ce que j'ai envie de faire. même si c'est souvent le cas ici, parfois, on envoie un chèque et puis c'est la volonté du donateur qui va déterminer le projet. Là, dans ce cas précis, il faut quand même que les deux parties soient d'accord et qu'elles s'entendent. Et même si, bien sûr, cela, tout, c'est assez compliqué, parce que ça se trouve, pour une université, ce qui est plus urgent, c'est d'allumer la lumière, d'avoir des ordinateurs, de mettre l'Internet. Alors que pour les fondations, c'est peut-être de développer des thésards qui vont se pencher sur les questions de sociologie et autres, des choses comme ça. Donc tout va être un petit peu en négociation. Mais ça peut marcher quand les gens se mettent à table d'égal à égal, quand tout le monde a le droit de dire son point de vue et qu'un projet est fait de manière collaborative. J'ai un exemple dans le livre d'ailleurs sur le développement d'Internet et l'accès à Internet sur les campus, puisque ça a été quelque chose de problématique, car fort coûteux, avec un débit très lent, etc. Et du coup, c'est quelque chose dont les universités africaines ont dit aux fondations, voilà, vous voulez nous aider, voilà, là, on a besoin de vous, c'est faites-nous un Internet qui soit super rapide, qui soit abordable pour nos maigres budgets. Et travaillons ensemble. Et ça, de là est né ça s'appelle l'Internet Bandwidth Consortium. Donc, c'est un consortium sur l'Internet, sur la bande passante, qui aujourd'hui a permis d'aider des dizaines d'universités à avoir un accès gratuit. Donc, ça, c'est une des choses positives. Après, il y a des choses peut-être un peu moins positives, surtout pour les francophones. Moi, je parle de ça aussi dans mes publications, c'est le fait que ce sont des fondations anglophones qui viennent soutenir des institutions, des universités anglophones, et que donc forcément il y a un petit problème, surtout quand on pense au secteur universitaire qui vient influencer tout un continent et son développement économique. Là, forcément, on peut se dire, où est la place des francophones dans tout ça? Est-ce que les universités francophones reçoivent un peu de cet argent ou pas du tout? Alors, dans les études que j'ai faites, moi, je vois très clairement près de 80% des subventions, des grants de ces fondations vont directement dans les universités anglophones. Donc, c'est déjà un énorme biais dont il faut prendre conscience, parce que ça a forcément une incidence sur le développement de ces modèles universitaires à l'américaine, à l'anglo-saxonne. Alors, j'étais allé à Dakar, l'université tchèque en Tadiop, en novembre dernier, et heureusement, d'ailleurs, ça a un petit peu évolué, et Lucad a reçu un peu de soutien de quelques fondations américaines. Donc, il y a quelques universités francophones qui arrivent à s'en sortir, arrivent à découvrir cet univers de la philanthropie américaine, et qui arrive aussi à faire des demandes et à échanger avec elles. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est quand même c'est un petit peu la pointe d'un iceberg qui soulève ce problème, qu'énormément d'argent vient soutenir des universités non francophones et qu'il n'y a pas vraiment l'équivalent. Il n'y a pas une philanthropie de la francophonie comme on aimerait la voir. Hein. Avec Charles Sellen, à qui j'écris ces papiers, on réfléchit à ça. Qu'est-ce que ce serait, quoi, une philanthropie de la francophonie, et comment est-ce qu'on peut la voir jouer un rôle international, par exemple, notamment dans le secteur universitaire, et le développement d'un modèle universitaire francophone soutenu par une philanthropie francophone. Donc, ça, ce sont des idées qui ne préoccupe que les chercheurs comme nous, mais après, peut-être qu'en pratique, ça peut inspirer quelques fondations dont je ne dirai pas le nom, qui sont là, capables de soutenir la rénovation du toit de Notre-Dame, mais qui pourraient peut-être aussi soutenir le développement d'un secteur universitaire ou d'autres causes.
La philanthropie américaine entre-t-elle en compétition avec d'autres pays philanthropes en Afrique?
Alors, ça, c'est une très bonne question qui me fait encore réfléchir parce que j'ai commencé à faire quelques recherches sur la philanthropie chinoise et je suis aussi en train d'écrire un papier sur la philanthropie des pays du Golfe et puis la philanthropie indienne. Je regarde aussi bien sûr l'émergence de la philanthropie africaine et bien sûr un petit peu aussi en France, en Europe. Mais je vois, en tout cas sur le continent africain, je suis déjà très intrigué par la présence de grandes fondations arabophones qui viennent soutenir l'éducation. Je vois bien sûr de plus en plus de Chinois qui viennent déjà travailler en Afrique, mais et aussi venir en aide. Hein, la diplomatie des masques à la chinoise, ou du matériel sanitaire et des masques, et des tests contre le virus, sont quasiment tous les pays africains qui en bénéficient aujourd'hui. Donc, on sent qu'il y a une appétence, en tout cas, pour cette philanthropie chinoise. D'être présent, de jouer un rôle en Afrique et de par le monde, c'est sûr. Mais on voit de plus en plus ces nouveaux systèmes philanthropiques s'entrecroiser, s'entrechoquer sur le continent africain. Là, ça joue bien sûr les organisations internationales, les agences de développement, la Banque mondiale, etc. Donc, tout ça fait un petit méli-mélo, pas souvent très bien coordonné. Et d'ailleurs, j'ai tendance à penser souvent en compétition, d'une certaine manière. Donc, c'est intéressant à voir comment cela va évoluer. En tout cas, j'espère surtout que pour revenir sur le point précédent, j'espère surtout que les universités francophones pourront en bénéficier et se développer. Ce serait quand même terrible si on se retrouvait un petit peu à la queue de tout cela parce qu'on n'a pas suffisamment pensé à une autre manière de les financer. Voilà, ça c'est donc la conclusion que je voudrais faire, c'est que finalement, pourquoi pas réfléchir tous ensemble à une philanthropie de la francophonie qui vienne en aide à nos institutions où la langue française finalement est utilisé pour former cette jeunesse. Et je pense qu'il faut venir peut-être réfléchir d'une autre façon sur ce cas.